Le pamphlet de Gontran, c'est quoi? C'est un événement qui m'a marqué, sauté aux yeux, fait mal en dedans, fait rire aux larmes, a suscité une émotion et dont je voudrais partager mon envie d'y mettre des mots. Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Citoyens, notre mission est terminée. Nous allons céder la place dans votre hôtel de ville à vos nouveaux élus, à vos mandataires réguliers. Aidés par votre patriotisme et votre dévouement, nous avons pu mener à bonne fin l'œuvre, difficile entreprise en votre nom. Merci de votre concours persévérant. La solidarité n'est plus un vain mot. Le salut de la République est assuré. Si nos conseils peuvent avoir quelque poids dans vos résolutions, permettez à vos plus zélés serviteurs de vous faire connaître, avant le scrutin, ce qu'ils attendent du vote aujourd'hui. Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des parleurs, incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement, celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste. Et c'est aux électeurs à connaître leurs hommes, et non à ceux-ci de se présenter. Nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Hôtel de Ville, 25 mars 1871, le comité central de la garde nationale. Chères auditrices, auditeurs, à vos oreilles, je souhaiterais accrocher des boucles de cerises. Imaginez-vous un arbre magnifique planté au beau milieu de la cité, un arbre dont les fleurs à la beauté rare ne durent que peu de temps et qui couvre le sol d'un tapis qu'emporte le vent. Un arbre dont les fruits couleur rubis donne de la joie au cœur du printemps. Voici le cerisier de la Commune de Paris, il y a 150 ans, ce mois-ci. Commune de Paris qui ne durera que 71 jours, du 18 mars au 28 mai 1871. Mais quel fruit nous a-t-elle confié? Eh bien, la démocratie directe, dans laquelle idéalement les citoyens exercent directement le pouvoir, le communalisme, qui désigne une forme d'organisation politique de type anarchiste, reposant sur une fédération de communes administrées dans le cadre de la démocratie directe. L'émancipation des femmes, la reconnaissance des étrangers comme citoyens à part entière, l'œuvre sociale, la reconnaissance du travail, la défense de la laïcité, la culture pour tous. Fruits qui ont continué de pousser, mais dans les grandes serres de la démocratie représentative, que j'appellerai personnellement OSM, Organisme Socialement Modifié. La Commune de Paris voulait une république sociale. Ils l'ont transformée en république d'ordre social, ce qui en fait encore aujourd'hui toute la différence. Et pour ma part, une nouvelle forme de monarchie déguisée tout simplement. Un système politique dans lequel on reconnaît à une assemblée restreinte le droit de représenter le peuple. Cela ne vous rappelle-t-il pas Versailles? Dans leur serre, les grands électeurs et lagueurs taillent, coupent, scient, greffent, marcottent les arbres de la nation. Ils en récoltent pour nous les fruits, mais ne nous laissent que les noyaux. J'utilise ici, comprenez-le bien, comme un fait exprès, cette fâcheuse métaphore aux airs dépassés, que certains qualifieront de non adaptée à la situation actuelle. Et pourtant, leur répondrai-je, La Commune de Paris ne sera jamais aussi vivante dans le cœur d'un peuple que quand son appendice social, par trop obstrué, par les nombreux noyaux qu'on lui a fait bouffer, l'amènent au bord d'une bonne grosse péritonite populiste. Tout comme en ce moment où rôdent les enfants d'un Adolphe Thiers ou d'un Jules Ferry. Un Jules Ferry considéré encore aujourd'hui comme l'un des pères fondateurs de l'identité républicaine. Lui qui fit tirer sur la foule le 22 janvier 1871. Je laisse ici à votre approbation toute la saveur de cette identité républicaine qui ensemence encore nos petites têtes blondes ou brunes dans nos livres d'histoire. Un Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République, qui vouait un culte à l'action et méprisait la contemplation. Je cite « Qu'il soit ou ne soit pas destiné au bonheur, il est certain du moins que jamais la vie ne lui est plus supportable que lorsqu'il agit fortement. Alors il s'oublie, il est entraîné et cesse de se servir de son esprit pour douter, blasphémer, se corrompre et mal faire », disait M. Thiers. En gros, il fait ce qu'on lui dit et puis c'est tout. Agir coûte que coûte, sans autre impératif que le moment présent, et en évitant le plus possible d'utiliser la pensée, rajoutait M. Thiers. Se corrompre et mal faire, disait M. Thiers. Lui qui sera député des Bouches-du-Rhône, conseiller d'État, secrétaire général du ministère des Finances, sous-secrétaire d'État, ministre des Finances, ministre de l'Intérieur, puis président de la Troisième République. Lui, Adolphe Thiers, qui fit donner l'assaut contre les Canuts, ouvriers de la soie lyonnais, entre le 9 et le 15 avril 1834, et fera 600 morts. Se corrompre et mal faire, disait M. Thiers. Lui, Adolphe Thiers, qui le lendemain de l'assassinat d'un capitaine d'infanterie, tué d'un coup de feu, tiré depuis un immeuble de la rue Transnonain, à Paris, actuellement rue Beaubourg, et faisant suite à la révolte des Canuts, massacrera tous les habitants de cet immeuble le lendemain. « Se corrompre et mal faire », disait M. Thiers. Lui, Adolphe Thiers, qui fera exécuter 147 Parisiens au cimetière du Père Lachaise. « Se corrompre et mal faire », disaient et disent encore aujourd'hui d'autres M. Thiers. Des M. Thiers dont le nom et la mémoire sont encore honorés sur des plaques de rue à Paris, Marseille, Avignon, Grenoble, Valence, Crépy-en-Valois où j'habite, et dans bien d'autres villes encore. Dites, expliquez-moi donc un peu comment peut-on réellement se corrompre et mal faire à ce point. Adolphe Thiers, ce fruit pourri qu'avait combattu l'esprit même de la Commune et qui a survécu, et dont les enfants légitimes de la haine cherchent encore aujourd'hui à séduire le peuple, ce bon peuple qui s'empêche encore de penser pour agir et les élire. Mais soyez sûr que les fruits de la Commune ne sont pas morts. Ils poussent encore en terrain vague, en friche et en liberté. Quand sous serre, vous continuez de produire de l'idéal en boîte, de la pensée préfabriquée, de la cerise à l'eau d'ennui, les fruits repoussent, eux, chaque année, plus rouges du sang versé. Se gorgent d'idées nouvelles à partager entre les peuples. Que ce soit dans les défis sociaux, écologiques, ou bien encore dans cette pandémie de la Covid-19, le communalisme aurait et devrait avoir son mot à dire. Malheureusement, encore en 2021, le pouvoir monétaire, qui va jusqu'à associer les démocraties représentatives d'ordre social aux pires gourous populistes, dictateurs de tout poil, offre-t-elle le spectacle de leur affaissement ? Ainsi, l'Europe, dans laquelle nous vivons, est associée à un Viktor Orban et à sa démocratie illibérale, remettant en cause l'état de droit dans son pays. Ainsi, offre-t-il à nos sociétés les pentes dangereuses de leur montagne d'or ? Donne à la nature les raisons de sa colère, jongle avec les vaccins de cette pandémie mondiale, donnant au plus offrant la raison du plus mourant. Ainsi, les mouvements populaires deviennent-ils populistes, créant la peur, refermant les frontières, espérant que les cerisiers se meurent. Mais le fruit originel de la Commune de Paris n'est pas figée dans un temps donné. Elle n'est pas l'exemple à suivre à la lettre, le modèle d'excellence qui marche le mieux. Il serait fou de croire qu'une entreprise humaine puisse croître à tout jamais, sans que le renouveau d'un printemps vienne la remplacer, la faire avancer. Cependant, la Commune de Paris reste un exemple unique et passionné d'un partage du pouvoir vers un idéal plus appliqué à tous et à chacun. un monde dans lequel nous pourrions réguler tous ceux et celles qui deviennent trop gros pour une poignée d'entre eux seulement, à l'image des GAFA d'aujourd'hui, par exemple. Un monde qui pourrait prendre la décision de reconnaître à la nature son droit d'aînesse, la seule à y prétendre à mon humble avis. Un monde certes pas idéal, y en a-t-il un, mais où il ne s'agirait plus simplement d'aller voter pour des gens qu'on déteste, devant nos écrans tout en s'empiffrant de sucre et de graisse, la peur au ventre que d'autres nous prennent ce qui pourtant ne nous appartient pas, la liberté pour tous de vivre sans guerre, de manger à notre faim et d'aimer nos destins, tout en partageant la planète. Un monde aux dangereuses positions populistes qui nous amènent de plus en plus à des Adolphe Thiers, des Vladimir Poutine, des Donald Trump, des Jair Bolsonaro, des Narendra Modi, des Benjamin Netanyahu, une Marine Le Pen, un Viktor Orban et autres nazis de salon qui tendent à s'installer au château. Mais alors, qu'est devenue la commune dans nos cœurs ? Une petite flamme perdue et fragile attendant un gaz populaire ? Un souvenir fédéré au mur de nos consciences endormies ? Un conte démocratique pour enfants sages ? Je me demande parfois, en toute franchise, si elle revenait, y participerais-je ? Aurais-je envie de prendre des décisions au nom de ceux que j'y représenterais ? C'est-à-dire pour mes frères humains dont l'idée ne fait pas unanimité. Est-on condamné à prendre le pouvoir, sous quelque forme soit-il ? Ce que je peux dire, c'est que la Commune de Paris m'apparaît encore comme un exemple de pouvoir, des plus justes, qui exista durant 71 jours seulement. Que serait-elle devenue ? Qu'en ferions-nous aujourd'hui ? La réponse est sans doute la même qu'hier. Faut essayer. Faut essayer et se battre pour ce qui est juste, tant individuellement que de façon communautaire. La commune est en moi, en vous, en nous, qui que vous soyez, même si vous l'avez en horreur. Dans le fond, depuis qu'un plus un fait deux, depuis que les mathématiques se sont impliquées dans la croissance de l'humanité, la commune n'a jamais cessé d'exister. Il n'y a pas de frontière pour ce sentiment-là. Entraînez-nous, le pouvoir, toujours et simplement le pouvoir, que prend un être humain sur les autres. Les idées de la commune, 150 ans après, restent vivantes et progressistes. Mais encore faut-il ne pas laisser la place à un Adolphe Thiers. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?